Bonjour à tous, bienvenue sur Temps long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Pierre Cazeneuve. Pierre Cazeneuve, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député macroniste des Hauts-de-Seine. On tourne aujourd'hui au lendemain de la perte du vote de confiance de François Bayrou, donc ça va être une interview qui va être un peu à chaud. On va parler du parlementarisme en France, de la difficulté de gouverner le pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a trois chiffres que j'aimerais partager avec vous, mais aussi aux téléspectateurs. Ces chiffres, c'est 99, 279 et 240. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, 279 ou 289 ?
279.
Non, 289, c'est la majorité absolue à l'Assemblée nationale. 240 ?
Ouais.
240, j'ai pas. Et 99, c'est un pourcentage ou c'est...
Non, c'est la durée en jours du mandat des trois derniers premiers ministres.
Bon, j'y étais pas du tout.
En moyenne, ils ont duré moins longtemps que des présidents du Conseil sous la 4e République. 4e République était quand même connue pour son instabilité. Vous, au quotidien, en tant que parlementaire, comment vous vivez cette instabilité ?
Elle est terrible. En tant que parlementaire et en tant que citoyen aussi, dans la mesure où l'instabilité, quand un gouvernement tombe, quand une nouvelle équipe gouvernementale se met en place, et ben finalement, tout ce que vous avez fait, tout le travail qui a pu être accompli sur différents textes, etc., tombe un peu en ruine. Et puis par ailleurs, le fait de ne pas avoir de majorité, le bordel ambiant à l'Assemblée nationale qui est dû à sa balkanisation avec 11 groupes politiques, fait qu'aujourd'hui, on fait très très peu de fonds, on fait très très peu de textes avec réellement de l'impact. On a multiplié les petits textes, mais finalement, les textes qui ont vraiment de l'impact, qui sont vraiment structurants pour la politique française, n'existent plus. Et donc, c'est tout à fait désespérant. Et donc, cette instabilité, elle est vraiment préjudiciable à la politique au sens large et aux Français, évidemment, puisque derrière, le monde continue d'avancer et nous, on n'arrive pas à porter et à faire la loi de manière suffisamment efficace pour affronter ces grands défis.
Dans le monde de l'entreprise, on parle souvent de crise de sens, de perte de sens au travail. Est-ce que vous ressentez ça, du coup ?
Je pense qu'il y a un « bore out », comme le disent les Américains.
Si je me permets, c'est là, je crois que c'est même le « brown out ».
Brown, exactement. Ouais. Très partagé dans l'ensemble de l'hémicycle et par de très nombreux députés, parce que c'est désespérant, on passe beaucoup de temps, c'est évidemment un engagement qui prend beaucoup de temps et une fonction qui prend beaucoup de temps, encore plus en hémicycle. Quand c'est vain, c'est évidemment très démoralisant et en plus, quand on ne voit pas forcément de porte de sortie, c'est là aussi un peu perturbant. Je vais vous donner une statistique très simple. Je suis député depuis 2022, je n'ai jamais voté un budget. C'est la prérogative numéro un pour un parlementaire. Mmh. Je n'ai jamais voté un budget parce que tous les budgets ont été adoptés par 49 alinéa 3. Et j'ai passé, je n'ai pas compté, vous aurez pu faire dans vos trois chiffres, 249, c'est peut-être le nombre d'heures que j'ai passé assis dans l'hémicycle à écouter simplement des discours de motion de censure.
Mmh, mmh. Quand vous allez en circonscription, qu'est-ce qu'on vous dit ?
J'étais encore là tout le week-end, c'était le week-end de la rentrée, donc un week-end avec tous les forums d'association, très longuement à Rueil-Malmaison, chez moi. Ce qu'on nous dit, c'est une attente très forte de stabilité, un rejet un peu global de la politique et peut-être, c'est ce qu'il y a de pire, un peu de compassion. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils m'engueulaient. Mmh. Aujourd'hui, ils me disent bon courage. C'est pas bon signe. Ils disent bon courage parce qu'ils voient le bordel à l'Assemblée nationale. Ils me disent bon courage parce que ils savent bien que cette instabilité, elle nous percute aussi de plein fouet en tant que citoyen, en tant qu'homme. Aussi face à tous ces dingos, nous autres raisonnables, on a la vie dure et que c'est difficile d'entendre une voix un peu mesurée dans un contexte aussi électrique qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui.
On reviendra sur le terme de dingo tout à l'heure, parce que chaque parti considère l'autre en ce moment comme un dingo. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression que la démocratie, elle est en danger ? Si les parlementaires ne croient plus en la politique, que les citoyens ne croient plus en la démocratie, est-ce que vous imaginez qu'à moyen terme, les citoyens se disent, puisque les politiques sont incapables de s'entendre, pourquoi pas avoir un régime avec un homme fort à sa tête ? Ce qu'on ressent, ces tentations antidémocratiques en circo?
Très sincèrement, je ne crois pas, puisque aujourd'hui, il y a une certaine forme de vitalité démocratique, quand bien même ça a été un capharnaüm assez puissant. La dernière preuve la plus concrète, c'est le taux de participation après la dissolution inédite sur une élection législative. Donc on voit bien que par ailleurs, il y a toujours une appétence sur ces grands rendez-vous électoraux. Et donc la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est un système évidemment représentatif dans le cas de la France, avec des élections libres, avec une presse libre, avec des partis politiques qui se structurent et qui débattent légitimement. Donc ça restera évidemment toujours précieux. Non, ce que le bordel ambiant peut générer comme tentation, c'est plutôt d'aller vers des partis beaucoup plus extrêmes, qui pour le coup, eux, remettraient en cause la démocratie ou en tout cas certains fondements de la République. Ça, c'est sûr qu'on le perçoit. Et le fait qu'on soit... de toute façon, tous les changements de régime, sont même à l'intérieur des différentes républiques qu'on a pu avoir, sont souvent dus ou évidemment à des événements extérieurs de guerre ou à l'essoufflement d'un système politique et l'essoufflement d'une manière d'organiser une constitution et donc d'organiser des pouvoirs, notamment le cas de la quatrième. Moi, j'ai un avis un peu partagé sur ce sujet-là. Et je pense qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de débats sur la proportionnelle, j'imagine qu'on va y revenir, sur pointer du doigt la Ve République, notre constitution, notre modèle politique comme étant la cause du bordel ambiant. Je pense qu'au contraire, c'est ce qui nous protège aujourd'hui de catastrophes bien plus graves, que ce qu'on vit est en fait assez conjoncturel. Ça peut être pérenne, mais assez conjoncturel, et que nos institutions sont extraordinairement bien foutues, et qu'il fallait être visionnaire. Debré était visionnaire, tant on a vu là depuis 3 ans, on a utilisé des articles de la Constitution pensés en 58, dans un monde de 1958, et qui se sont révélés tellement justes et tellement précieux en 2024 et 2025. Et donc on est un peu dans ce voyage au bout de la cinquième, on est en train de découvrir, d'aller jusqu'au bout du système, et je pense qu'aujourd'hui il tient à peu près et il nous permet de... Vous savez. Par contre, voilà, dans la mentalité, dans notre manière de faire de la politique, à isopérimètre institutionnel, là il va y avoir des changements.
Voilà, mais ces changements, ils sont liés à quoi? Je prends un pays, par exemple, comme l'Allemagne. En Allemagne, il y a toutes les combinaisons de gouvernements possibles. On peut avoir des gouvernements avec des Verts et la droite. On peut avoir les libéraux et, je ne sais pas moi, et les sociodémocrates. Pourquoi, aujourd'hui, les partis politiques français sont incapables de s'entendre sur une coalition?
Alors, deux choses. J'aime beaucoup les exemples, les comparaisons internationales. Elles sont toujours à prendre avec des pincettes et à reconstitualiser ou par l'histoire ou par la réalité de ce que sont leurs institutions. Déjà, vous l'avez dit, l'Allemagne n'a pas de président. C'est aussi une des raisons de l'histoire. N'a pas un exécutif très fort pour des raisons évidentes post-Seconde Guerre mondiale. Vous parlez de la coalition entre les Grüneux et
la CDU.
Et la CDU. Bon. Tout le monde trouve ça formidable. C'est aussi ce qui a fait qu'ils ont fermé le nucléaire allemand dans une coalition un peu étrange et que du coup, l'Allemagne est aujourd'hui dans un déficit énergétique et dans une aberration écologique qui va potentiellement avoir des conséquences massives sur leur économie de demain. Donc oui, ils ont une culture de coalition. Ils arrivent à faire ces choses-là, mais parce qu'ils ont un système très proportionnaliste, ce qui fait que c'est impossible quasiment pour un parti de gagner une majorité absolue. Mais du coup, ça leur oblige à faire des coalitions et qui sont une des limites, moi, de ces régimes purement parlementaristes, c'est-à-dire forcément une ligne un peu moins claire, une politique un peu de compromis, qui est donc parfois un peu moins tranchante. Et donc, du coup,
mais
parfois
qui fonctionne quand on regarde l'évolution du PIB moyen des Allemands, par exemple, par rapport à la France, on est quand même obligé de constater que le modèle fonctionne.
Oui, c'est sûr. Mais est-ce que c'est dû au régime parlementaire ou est-ce que c'est dû à la qualité des parlementaires sur place? Est-ce que, en fait, si il y avait à la tête du parti vert en Allemagne Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, est-ce qu'il y aurait eu un deal possible, une intelligence collective pour aller dealer avec Angela Merkel pendant 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire? Je ne crois pas non plus. Jamais de la vie, ça ne serait arrivé en France. Et donc ça, ce n'est pas tant nos institutions, s'il y avait la proportionnelle.
Vous pensez que les partis politiques en France sont plus sectaires, par exemple, que d'autres partis occidentaux ou en tout cas d'autres partis de régime parlementaire?
En tout cas, oui. Alors, sectaire, c'est peut-être une critique un peu forte, mais en tout cas avec des oppositions et des postures théoriques beaucoup plus marquées parfois qu'ailleurs.
Comment ça s'explique?
C'est une bonne question. Pour le coup, là, il doit y avoir un peu d'historique culturel. Il y a un peu, c'est un peu paradoxal parce que les théoriciens de la proportionnelle et globalement les grands connaisseurs de la science politique vous disent que bizarrement, les scrutins proportionnels, puisqu'ils favorisent la multiplication des partis, renforcent la radicalité des partis en tant que tels. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez être identifié autour d'un vecteur, et donc vous êtes très très fort, quand vous êtes vert, vous êtes très très fort à fond dans votre ligne sur l'écologie, etc., telle que vous la portez, pour essayer de capter un électorat que vous savez assez limité. Quand bien même, quand on est sur plutôt des systèmes de coalition a priori, avant le vote, comme ça peut l'être en France, et un régime avec un scrutin majoritaire à deux tours, bah vous avez plutôt tendance à la modération particulièrement, parce que vous devez élargir avant le vote votre spectre et votre électorat à cibler. Bon, mais nous, on a une vie politique extrêmement radicalisée, avec des personnalités très fortes, une culture du débat et de l'affrontement qui est, je pense, assez unique aussi en Europe.
C'est qu'en fait, comme on n'est pas un pays foncièrement libéral, chaque parti, en tout cas la plupart des partis, ont le culte du chef, plus que du compromis.
Oui, forcément. Et parce qu'ils avaient aussi une élection présidentielle qui arbitre chaque année, enfin chaque quinquennat, un peu le destin politique du pays sur 5 ans. Parce que vous avez une mythologie autour de l'élection présidentielle, de la rencontre d'un homme et d'une femme avec le peuple français. Voilà, tout ça a été très, très construit aussi dans une espèce de théologie et une affection probablement des Français pour le fait d'avoir pour le coup un pouvoir exécutif assez fort. Et ça a été, je pense, la raison pour laquelle De Gaulle a poussé cette élection du président au suffrage universel, à la fois parce qu'il n'y a qu'un seul De Gaulle dans une vie politique contemporaine, et donc la légitimité d'être le chef de la France libre et celui qui a libéré la France, ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un pays, et qu'il fallait donner une légitimité à celui qui le remplacerait ou celle qui le remplacerait.
En tout cas,
on a une culture du chef très forte en France.
Vu de l'extérieur, au-delà du culte du chef, on a l'impression qu'aujourd'hui, les nouveaux députés, c'est avant tout des militants. Alors qu'avant, à l'époque où il n'y avait pas la règle du non-cumul des mandats, on pouvait avoir des élus qui étaient déjà habitués à faire des deals, en fait, dans leur ville. Est-ce que vous pensez, quelque part, que ce non-cumul des mandats, c'est quelque chose qui contribue à bloquer le pays?
Non, très sincèrement, je crois pas. Et ce que vous dites est vrai et faux. Je fais toujours très attention à ne pas écorner l'image de ce qu'est réellement l'Assemblée nationale et des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Parce que derrière les Ercilia Soudé, les Louis Boyard, les Jean-Philippe Tanguy et les Sandrine Rousseau, qui sont quelques députés que tout le monde connaisse, qui sont très médiatiques, qui sont très provocateurs, vous avez des dizaines et des centaines de députés que vous ne connaissez pas, qui sont extrêmement engagés sur leur territoire, qui sont des gens tout à fait normaux, qui avaient des métiers avant normaux, qui étaient avocats, profs, chefs d'entreprise, agriculteurs. Moi, je le dis toujours, c'est une spécificité de la manière où je suis placé. À ma droite, j'ai une éleveuse de poulets de Bretagne, et à ma surgauche, d'un autre voisin, j'étais un éleveur de cochons. Bon, c'est ça aussi l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut surtout pas laisser entendre qu'on est une assemblée maintenant avec que des militants, des gens. C'est pas vrai. Les députés sont vraiment... Moi, je suis très attaché à les défendre dans leur ensemble.
Parce que c'est avant tout des gens... Une petite brochette de députés qui contribue à...
Évidemment.
À décrédibiliser la fonction.
À décrédibiliser la fonction, oui. Et surtout qui donne une image très erronée de ce qu'est la réalité de l'Assemblée nationale. Personne ne connaît les députés. Vous rencontrez n'importe quelle personne dans la rue, vous demandez le nom de 20 députés, il ne sort pas, et ce qui est parfaitement normal. On connaît à peu près son député. Parfois, quand on a une figure très forte dans son département, on le connaît. On connaît les superstars que je vous ai cités qui font des plateaux télé et des TikTok provocateurs. Mais le reste, vous ne les connaissez pas. Les 550 autres députés, les Françaises et les Français ne connaissent pas. C'est des gens qui font fortement leur travail, avec humilité, dans des territoires. Et qui, voilà, je veux juste préserver ça. Et ensuite, est-ce que le cumul des mandats aurait changé ou non? Je ne pense pas, parce qu'en fait, l'émergence que vous avez aussi de ces députés-là, c'est assez proportionnel aussi. Enfin, c'est assez corrélé, pardon, au rajeunissement des députés, à l'émergence de nouveaux profils qui sont dus au fait que une élection législative, on le sait, c'est avant tout sur l'étiquette. Et vous avez deux partis, le Rassemblement national et la France insoumise, qui ont énormément augmenté leur nombre de députés depuis 2022. Et donc, qui, eux, ont des profils très jeunes, très militants pour le coup, qui sont élus parfois dans des endroits où ils n'ont jamais mis un pied. C'est de manière absolument dingue. Hein. Et donc, voilà.
Enfin, c'était le cas aussi avant. Hein.
C'était le cas aussi avant, mais sauf que effectivement, vous aviez, dans un système un peu bipartite, tel qu'il a été pendant très longtemps en France, bah pour le coup, une structuration des partis politiques beaucoup plus longue, avec, voilà, il fallait bûcher, être conseiller municipal, puis maire, puis conseiller départemental, pour à la fin devenir député.
Là, c'était quelque chose de
très hiérarchisé.
On va un peu entrer dans...
Et ça, ça a complètement disparu. Donc oui, le cumul des mandats a fait en sorte qu'il y a moins de maires qui sont devenus députés, donc vous avez plutôt des profils qui ont émergé, mais qui n'étaient pas forcément militants, hein, dans la vraie vie. Quand vous regardez aujourd'hui le groupe PS ou le groupe LR... qui sont, on va dire, les deux anciens, entre guillemets, qui étaient les deux groupes majoritaires pendant très longtemps en France, même sans cumul des mandats, vous avez des anciens maires qui ont préféré leur mandat député, vous avez des élus locaux ou des grands élus locaux, voilà, ce n'est pas des militants, donc ça c'est aussi un profil. Et nous, quand on est arrivé en 2017, ce n'était pas des militants, c'était une grande vague pour beaucoup de sociétés civiles, parce que justement, on n'avait pas ce tissu d'élus locaux, mais c'est un peu décorrélé, et je ne crois pas que ça soit à cause du non-cumul des mandats. Le non-cumul des mandats a causé beaucoup d'autres problèmes, mais pas celui-ci.
Si on rentre justement dans le travail parlementaire, par exemple, est-ce que vous voyez au quotidien, on va dire, des clivages générationnels dans la manière d'appréhender le pouvoir et le travail parlementaire ?
Est-ce que c'est générationnel ? Je crois pas. Après, il y a des faux jeunes. Hein. Moi, j'ai 30 ans, mais je suis, d'un point de vue institutionnel, très conservateur, très attentif au protocole républicain, très respectueux de nos institutions. Donc, et vous avez des députés comme, je sais pas, Éric Coquerel, qui a les cheveux grisonnants et qui, pour le coup, est un hussard et manque de respect à chaque instant dans la présidence de sa commission des finances envers ce que sont nos institutions et envers ce qu'est l'esprit et la lettre de son rôle lui-même dicté par la Cour.
Vous êtes en commission développement durable, je crois.
Tout à fait. Donc, je crois pas que ça soit une question d'âge, là aussi. Je pense que c'est vraiment une question de culture politique.
Et par exemple,
le Rassemblement national s'est construit en opposition à la France insoumise. La France insoumise souhaite décrédibiliser l'institution, souhaite décrédibiliser le parlementarisme et globalement la manière dont fonctionne la Ve République pour pousser la sixième, pour montrer que ça ne marche pas et donc qu'il faut une révolution ou quelque chose d'autre et qui passerait par Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Et le RN, c'est un peu pile dans le sens inverse, c'est-à-dire par crainte de... Ouais, il a fait venir des députés qui sont... là aussi, qui n'avaient pas d'expérience, qui étaient avec un grand manque de crédibilité sur les plans techniques, technocratiques de la part du Rassemblement national, et donc a fait la fameuse stratégie de la cravate, et donc dans un respect là aussi très républicain de nos institutions. Donc vous avez deux stratégies très différentes. Ça n'a rien à voir avec l'âge.
Vous pensez que LFI a fait exprès, justement, parce que vous parliez de dingo, d'investir ces dingos ? C'est une stratégie ?
Quand je dis dingo, déjà je parle des deux extrêmes, hein, et puis ouais, c'est un terme évidemment un peu familier, mais c'est vrai que c'est des gens qui sont tellement extrêmes et tellement radicaux que la tentation est forte d'avoir de recourir à ce terme-là. Ils ont recruté des profils qui étaient capables de tenir des discours extrêmement radicaux. Ils sont par ailleurs excellents. Je veux dire, la France insoumise, si je regarde purement sur ce que c'est qu'une compétences politiques, il y a évidemment le fond, l'expérience que vous apportez de votre vie d'avant, de votre vie professionnelle, votre bagage intellectuel, le travail que vous pouvez mener réellement législatif, ok, ça c'est une part, et puis après vous avez une part un peu de hard skills politiques, de prise en parole en public, de compréhension de ce que c'est que la communication politique, de travail de terrain, sur lequel ils ont vraiment d'excellents députés. Voilà. Ils ont des députés très jeunes qui arrivent et qui, dès leur première semaine, sont capables de tenir de très longs discours sans notes, tout comprendre à comment fonctionne la communication politique sur un territoire donné. Voilà, donc il faut leur reconnaître ça. Ils ont investi des profils talentueux, avec un carcan idéologique complètement tracé, et oui, très provocateur, parce qu'ils savent aujourd'hui que dans un monde où l'information est surprésente, et vous avez besoin de cliver pour exister, vous avez besoin d'être un peu dingo pour percer l'algorithme TikTok 12 heures et exister dans un flux d'information continu. Et donc nous, les gens chiants, modérés, dont notre parti est l'illustration absolue, parce qu'on essaye de chercher un peu de compromis, parce qu'on essaye de chercher un peu de rationalité, parce qu'on essaye de chiffrer, de vivre dans un carcan.
Alors justement, on va revenir sur le compromis.
C'est très difficile d'exister.
On va revenir sur le compromis, mais avant j'ai une petite question. Quand vous êtes justement en commission, Vous arrivez à peu près à travailler avec les députés de tous les bords politiques, à faire des compromis.
Aujourd'hui, non.
Non, même en commission développement durable, c'est plus possible.
C'est plus possible. Depuis, c'est très difficile.
Depuis la dissolution.
Ouais.
Avec un peu de recul, est-ce que vous pensez que la dissolution, ça a été une erreur et est-ce qu'on vous fait remonter ça en circo?
Alors, est-ce que le faire remonter, c'est sûr? Est-ce que ça a été une erreur? Est-ce que c'était un succès? La réponse est non. C'est pas la même chose de est-ce que ça a réussi ou est-ce que c'était une erreur. Je pense que le président de la République n'a jamais tort de redonner la parole aux Français en utilisant les outils constitutionnels qui sont les siens. Et donc, je trouve ça très facile de balancer le président sous le bus en disant c'était une erreur, la dissolution, on a tout perdu. Moi, je pense que le président, à un moment donné, il a acté un décalage très fort entre la réalité du suffrage universel qui s'est exprimé sur un scrutin qui était celui des européennes et ce qui était la représentation nationale, qui par ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais depuis 6-8 mois, était de plus en plus englué, avec lequel c'était de plus en plus compliqué de trouver évidemment des compromis et de faire avancer et aboutir des textes. Réforme des retraites, catastrophique en termes de capacité à faire passer des textes, puis évidemment le sujet sur la loi immigration, mais globalement une Assemblée nationale qui commençait à se scléroser et à ne plus fonctionner, et donc il a souhaité redonner la parole aux Français avec ce qu'il a estimé être un choix clair entre les différents choix et les options politiques pour essayer de redonner de la vitalité, redonner de la clarté à l'action politique. Ça n'a pas marché, c'est incontestable. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort de le faire? Je ne crois pas.
Qu'est-ce que vous répondriez à nos concitoyens qui, justement, doutent en la politique, voire doutent en la démocratie quand ils voient le spectacle qui nous est offert actuellement?
Que je les comprends. Et qu'en tant que membre de la classe politique, je m'auto-dégoûte parfois. parce que, voilà, ça ne donne pas envie et que le spectacle qu'on laisse est affligeant. Je ne défausse pas ma responsabilité dans tout ça. Je fais plutôt partie des députés qui, que ce soit dans l'hémicycle ou dans les médias, prend sa part dans, pas la cacophonie, mais en tout cas dans la querelle dure et frontale qu'il peut y avoir aujourd'hui, mais que j'assume dans un combat, pour le coup, que j'estime très légitime contre les extrêmes en France et contre leurs représentants et contre la démagogie qui a gangréné notre classe politique. Donc je comprends qu'ils en aient marre, je comprends parce que le spectacle donné est affligeant et à la fois il faut essayer de tenir le cap, il faut essayer de rester optimiste, parler un peu de coalition, etc. C'était difficile à imaginer il y a encore 2-3 ans d'avoir un... impossible d'imaginer un gouvernement avec Bruno Retailleau et Manuel Valls dedans. Qui aurait dit ça il y a 5 ans? Personne.
Donc on a quand même progressé dans le parlementarisme.
Évidemment qu'on a progressé. Mais voilà, on est dans un monde, si vous voulez, je veux dire, il y a 15 ans, les gens, quand on regardait les différences de programme entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy, enfin, je veux dire, quelle chance, c'était des batailles idéologiques luxueuses de... on avait de la chance de s'affronter sur si peu. On s'affrontait très fort, hein, mais quand on regarde aujourd'hui, ce serait quasiment de la nuance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les différences idéologiques, les différences de projet pour notre pays, les différences sur les valeurs fondamentales de la laïcité, des droits de l'homme, de l'égalité, du rapport aux autres, sont tellement massives entre les différentes forces politiques.
Donc on est plutôt dans une bonne période pour la bataille des idées.
On est dans une période où il y a en tout cas des idéologies très marquées qui s'affrontent, de manière violente, mais qui s'affrontent. Et le vrai problème, c'est que la démocratie, parfois, c'est l'alliance des contraires c'est un cercle. Donc l'extrême gauche et l'extrême droite, très régulièrement, en se raccrochant à leur point commun qui est la démagogie, finissent par s'allier pour, à un moment donné, faire tomber un gouvernement, voter une réforme démago sur dépenser plus d'argent pour sans compter. Enfin, voilà.
Donc, vous évoquiez la difficulté de faire des compromis. Mais l'opposition vous dit, et peut-être à juste titre, que votre majorité n'est pas vraiment apte à faire des compromis.
Oui. C'est pour ça que
Est-ce que vous, de votre côté, vous auriez aussi des progrès à faire dans, on va dire, l'adoption du parlementarisme?
Oui, évidemment. Dans la mesure où bon, force est de constater qu'on nous reproche des choses. Et donc, la culture du compromis, elle est difficile. C'est très difficile parfois de remettre en cause un système de pensée, une approche économique qu'on estime être la bonne, juste qu'on a menée pendant 8 ans, de devoir revenir dessus. Quand bien même c'est un compromis nécessaire, c'est parfois très difficile. C'est très difficile de voter une connerie ou ce qu'on estime être une connerie. Bon, voilà, on va devoir apprendre à le faire, je pense, dans les prochains mois. Mais c'est très difficile, il faut le comprendre. Et comme je vous le disais, c'est un peu aussi la différence, je pense, entre la France, avec des positions très radicalisées, et les autres pays d'Europe, où quand bien même il y a évidemment des différences de partis, il y a un certain nombre de consensus autour de grands sujets comme la dette en Allemagne ou comme même des sujets plus nationalistes ou plus liés au phénomène de société au UK par exemple, sur lequel bah, voilà, il y a une base plus forte de commune entre même les différents partis. Là, voilà. Mais oui, un compromis, c'est quand à la fin, tout le monde est mécontent.
Et là, on n'a pas trop le choix peut-être.
Là, je pense qu'on n'a pas trop le choix.
C'est le plus petit dénominateur. Comment... Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'un député donc, du centre et de l'ancienne majorité comme vous fait son mea culpa. On voit aussi qu'au PS, là, il y a aussi une volonté de négocier.
Parce vous êtes mea culpa.
Vous dites, on n'a pas fait tout bien.
Oui, on n'a pas fait tout bien. Je prends notre part de responsabilité. Ouais. Enfin, mea culpa sur... Là, on prend notre part de responsabilité, bien sûr.
Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la suite? Est-ce que vous pensez que la classe politique et les députés auront la majorité nécessaire pour bâtir un compromis durable?
Durable, je ne crois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de députés courtes, mais qui existe encore, de députés issus de partis de gouvernement attachés aux valeurs de la République, qui est une base commune quand même assez forte. Et que en face de ça, vous avez deux menaces quasiment existentielles pour notre pays, qui sont l'extrême droite et l'extrême gauche, et que chaque minute qui passe sans que ces forces-là de gouvernement ne parlent pas entre eux et ne sont pas capables de trouver un gouvernement et des pistes de coalition possibles sont autant de voix données aux extrêmes qui auront beau jeu de dire que le système actuel ne fonctionne pas et donc en profiter pour vendre leur théorie funeste.
Ce qui donne encore plus de pression pour trouver un compromis durable.
Tout à fait. Et puis après... Aussi, c'est ce que je vous disais dans un truc un peu conjoncturel. Je pense que vous avez un phénomène dont on parle très peu, mais vous êtes pour la première fois en 2022, un président de la République qui a été réélu sans alternance. Mmh. C'est la première fois qu'on a ça. C'est la première fois que pendant 10 ans, on aura eu la même couleur politique avec la même majorité présidentielle au sens issu de la... Et le même président, sans alternance. Et donc ça crée, on voit bien, une espèce de fatigue démocratique, une volonté d'alternance qui est légitime et commune à tellement de pays. Et donc c'est ça aussi qui a entraîné, qui a peut-être été le début de l'étincelle qui a allumé ce bazar parlementaire et démocratique qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, ma théorie très personnelle, c'est que l'élection de 2027 engendrera derrière un fait majoritaire qu'on retrouvera parce que c'est le sens des institutions de la 5e et que je pense que ça va marcher. Dans un sens comme dans un autre, hein, ça peut être très grave ou très heureux, mais c'est mon sentiment. D'autres vous disent que la tripartition de la vie politique est pérenne. Et quel que soit le président élu en 2027, il n'aura pas de majorité.
Ben merci beaucoup. On a, comme à l'Assemblée nationale, un minutage des temps de parole des députés. On nous avait dit 28 minutes. On est à 28 minutes 59, me dit le chronomètre. Donc merci beaucoup, en tout cas,
merci
d'être venu avec nous. Et puis bon courage.